Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la Voix des songes. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre découverte du développement libidinal de l'enfant. Nous avons déjà abordé dans les précédentes émissions la période intra-utérine et la naissance, puis le stade oral, ainsi que la manière dont ces périodes peuvent apparaître dans les rêves. Dans cette émission, nous allons nous intéresser d'un peu plus près au stade suivant, le stade sadique anal, que l'on peut situer approximativement entre 2 et 4 ans. Comme nous l'avons déjà vu, le stade oral est marqué par le primat de la zone érogène buccolabiale. Cette période est caractérisée par la relation manger-être mangé, et donc ce qui est au cœur de ce stade est la question du don. Dans un premier temps, le don du sein que l'enfant reçoit de la mère, puis dans une phase plus aboutie, un certain don de soi qui introduit naturellement l'enfant au stade suivant de son développement. Le stade sadique anal, quant à lui, est caractérisé par son organisation de la libido sous le primat de la zone érogène anale, comme son nom l'indique. Durant cette période, l'enfant est invité à devenir propre, c'est-à-dire à apprendre à ne plus faire ses besoins dans une couche, mais à demander à aller au pot, ce qui l'oblige à apprendre à se retenir. Et c'est cette relation rétention-expulsion qui est au cœur de ce stade, avec une nouvelle fois la question du don qui est en jeu. Mais en général, en ce qui concerne le stade sadique anal, on préfère au terme de don celui de perte et sur la capacité de l'enfant à accepter cette perte. Nous allons y revenir. Avant de nous intéresser aux rêves, nous allons essayer de comprendre pourquoi ce stade de développement a été nommé ainsi, stade sadique anal. Comme toujours, tout démarre par des observations cliniques de Freud. Il remarque des traits d'un érotisme anal chez ses patients adultes, quel que soit leur sexe et quelle que soit leur orientation sexuelle, dont l'origine remonte à la période d'apprentissage de la propreté dans l'enfance. Durant cette période, Freud remarque la prédominance de pulsions sadiques et érotiques. Les pulsions sadiques sont liées à la capacité nouvelle de rétention de l'enfant, marquée par une contraction des sphincters, alors que les pulsions érotiques sont liées à l'expulsion, marquée par un relâchement des sphincters et une sensibilité de la muqueuse. Voilà pour ce qui est du qualificatif de sadique, toujours marqué par la pulsion d'emprise du sujet sur son environnement. Ce phénomène est aussi bien à l'œuvre dans le cas de la défécation, avec les sphincters anaux, que dans le cas de la miction, avec le sphincter vésical. Alors pourquoi avoir qualifié ce stade d'anal? Tout simplement parce que le résultat de ces deux actions n'a pas la même portée. La défécation produit quelque chose de solide, les fesses, dont la capacité de matérialisation, de symbolisation est plus forte que l'urine. Ainsi, comme l'a expliqué Freud, la défécation aboutit à donner quelque chose à l'autre, tel un cadeau, tel une preuve d'amour, alors que la rétention constitue une position agressive, hostile vis-à-vis de l'autre. Cette vision freudienne du stade sadique anal a été détaillée par Carl Abraham, qui découpe cette période en deux phases distinctes. Dans la première phase, l'érotisme anal est lié à l'évacuation, la pulsion sadique à la destruction de l'objet. Dans la seconde phase, l'érotisme anal est lié à la rétention et la pulsion sadique au contrôle possessif. En mettant ainsi en avant la jouissance qu'il existe, aussi bien dans l'expulsion que dans la rétention, on retrouve notre difficulté initiale de caractériser le stade sadique anal par le terme de don ou de perte. Dans les deux cas, il y a quelque chose de nous-mêmes qui est abandonné, mais la différence se situe au niveau de l'état d'esprit. L'abandon est-il consenti, c'est le cas du don, ou subi, on est alors dans la perte. Cette question centrale va structurer le sujet en développement et aura des retentissements à l'âge adulte. Elle aura évidemment des répercussions sur tout ce qui concerne les questions liées à la possession, et plus particulièrement la notion d'argent. La relation rétention-expulsion va alors se déplacer vers avarice-générosité. Mais au quotidien, le stade sadique anal fait aussi valoir ses effets dans le domaine de l'ordre, qu'il soit judiciaire ou hygiéniste, avec la relation protection-destruction de son environnement. Et enfin, le stade sadique anal est en lien direct avec la notion d'entêtement autour de la relation conservatisme des idées, ouverture d'esprit. Nous passons tous par ce stade de développement dans l'enfance, et nous pouvons donc tous nous reconnaître dans ses effets sur notre vie quotidienne. Rien de bien dérangeant, à moins que cela ait des conséquences pathologiques pour le sujet et des effets néfastes sur son environnement. Les rêves vont se révéler une nouvelle fois un outil précieux pour découvrir ce qu'il en a été du développement de chaque individu durant le stade sadique anal et de ses implications actuelles chez le sujet. L'idée ici n'est pas de faire un catalogue des éléments qui peuvent renvoyer à cette question à travers les rêves. Ce serait inutile car beaucoup trop long, et il serait impossible d'être totalement exhaustif. Cependant, quelques types de rêves peuvent mettre sur la piste les esprits curieux, en lien avec les trois grandes thématiques résultantes du stade sadique anal. Alors, la possession, l'argent, le don, la perte, ces thèmes apparaissent très souvent dans les rêves. Aussi, l'ordre, et tout particulièrement l'hygiène. Il est assez fréquent de rencontrer des personnes qui rêvent de toilettes, mais aussi de bains et de douches. Et enfin, les idées, et plus particulièrement dans les rêves, notre capacité à prendre conscience de certaines choses en opposition avec notre pensée consciente. Afin d'être un peu plus précis et d'illustrer mes propos, je vous propose que l'on s'intéresse à une petite série de rêves. Voici le récit de quatre rêves d'un homme. Premier rêve. J'étais assis à mon bureau de travail et tout à coup, ma patronne est venue me voir. Terminant d'échanger avec un autre employé, elle s'est penchée sur mon épaule et m'a effleuré de son sein droit. Tout à coup, en rigolant, elle s'est mise à appuyer son sein de plus en plus fort, comme pour m'étouffer, et je me suis senti mal à l'aise. Je ne savais plus s'il fallait que je rie ou que je me fâche. Rêve 2. Je suis aux toilettes et j'urine. Rêve 3. J'étais allé faire une course en auto et je l'avais stationné sur le bord du trottoir. Je suis sorti de la voiture pour 5 minutes à peine. J'embarque à nouveau dans ma voiture et je roule. Tout à coup, je constate que ma bagnole penchait vers la droite et qu'elle était difficile à conduire. Je sors et regarde du côté du conducteur et j'aperçois une grosse bosse dans la porte arrière. Ma voiture avait été enfoncée très profondément et je suis devenu furieux. Quatrième et dernier rêve. J'ai vécu de l'angoisse, mais je ne puis décrire avec précision la situation. Je crois que ça s'est répété à quelques reprises durant la nuit. Voilà. Alors, le premier rêve n'a pas grand-chose à voir avec le stade anal qui nous intéresse aujourd'hui. Cependant, il permet de faire le lien avec le stade oral que nous avons traité lors de la dernière émission et du rapport central du nourrisson avec le sein maternel. Nous avons ici une nouvelle preuve de cette ambiguïté affective vis-à-vis de la mère et plus particulièrement du sein. Un sein porteur de satisfaction, je ris, et également porteur d'insatisfaction, je me fâche. Ce qui est intéressant, c'est que l'insatisfaction ne vient pas de l'absence du sein, mais de sa trop grande présence. Dans un cadre psychothérapeutique, il est évident qu'une telle analyse ne serait pas lancée au visage du rêveur, mais on ne pourrait faire l'économie de questionner subtilement la personne sur son lien à la mère et son caractère prévenant, protégeant, nourricier. En tout cas, Après ce premier rêve en lien avec le stade oral et la nourriture, il n'est pas étonnant de découvrir un rêve où apparaissent des toilettes. Après le stade oral, nous sommes donc bel et bien dans le stade anal. Et pourtant, j'attire votre attention sur le fait que la personne urine dans son rêve. Dans le troisième rêve, il va faire des courses, donc en lien avec les commissions, qu'elles soient grosses ou petites, et il utilise son automobile. Dans les rêves, la voiture, en tant que véhicule, moyen de locomotion, symbolise toujours le corps, propre ou imaginaire, du rêveur. Et il stationne sa voiture sur un trottoir. Il vient donc ici trôner sur le pot. Et de préciser, je suis sorti de la voiture pour 5 minutes à peine. Cette phrase est particulièrement intéressante car elle renvoie au fait qu'aller au pot est toujours vécu comme un don ou une perte, comme l'abandon d'une partie de soi. Ce qui sort de la voiture, c'est-à-dire de lui-même, c'est aussi une partie de lui-même. Il est donc à la fois la voiture et ce qui sort de la voiture. Une fois la chose faite, il peut reprendre son chemin. Cependant, il remarque que sa voiture a un problème à la porte arrière. Si la voiture représente le corps du rêveur, la porte arrière renvoie inévitablement à l'anus. Or, jusqu'à présent, il n'a été fait mention que d'uriner, pas de déféquer. Or, pourquoi stigmatiser la porte arrière alors qu'uriner fait davantage penser à la porte avant, l'urètre émergeant à l'avant du corps, en particulier chez l'homme. Cet exemple, onirique et clinique, vient ici confirmer que ce stade de développement, bien qu'il concerne dans la réalité l'ensemble des sphincters du corps, reste sous le primat de la zone érogène anale, de par la puissance de symbolisation que nous avons évoquée précédemment. Enfin, le dernier rêve, comme toujours, vient résumer et donner toute sa profondeur psychique à la série. Il est ici question d'angoisse, sans plus de précision. Mais les rêves précédents nous ont déjà ouvert quelques pistes de réflexion sur les origines probables de cette angoisse. Tout d'abord, en ce qui concerne le stade oral, où le sein et donc la mère semblent avoir été très, peut-être trop, présents. Seul le rêveur peut en témoigner et on se gardera bien de conclure sur ce point. Ensuite, pour ce qui est du stade anal, un problème est mentionné sans plus de précision. Tout juste représenté dans le rêve par une bosse à la porte arrière, comme si elle avait été enfoncée. Il est donc à nouveau question d'un forçage. Alors je connais la propension de certains pseudo-thérapeutes à brandir le souvenir inconscient d'un viol dans l'enfance pour l'évacuer immédiatement. Ce genre d'interprétation sauvage a un effet désastreux sur la personne qui la reçoit, mais démontre aussi une méconnaissance profonde des mécanismes de développement et de fonctionnement de la psyché. Car des forçages dans notre enfance, on en a subi plein. Et c'est justement ce qui est au cœur du stade anal et de cette période marquée par l'apprentissage de la propreté. Jusqu'à présent, l'enfant se soulageait quand il voulait. Désormais, on lui demande de se contrôler, de se retenir. Dans un premier temps, la demande est douce. C'est une invitation à aller au pot. Mais cette invitation va inévitablement devenir une obligation et l'enfant va être forcé à aller au pot. L'effet de ce forçage ainsi que ses conséquences dépendent de la qualité de la relation de l'enfant à ses parents. Mais cela passe toujours par une période d'angoisse en lien avec la perte d'une partie de soi. Voilà ce que l'on pouvait dire sur cette série de rêves en relation avec le stade sadique anal. Après avoir exploré la période intra-utérine et la naissance, puis le stade oral, la logique voudrait que nous nous intéressions désormais au stade suivant, le stade phallique. Or, Nous avons déjà abordé le complexe d'Œdipe et le complexe de castration, qui sont au cœur du stade phallique, au cours des émissions 3 et 4. Je vous invite donc à aller les écouter ou réécouter. En attendant, eh bien à la semaine prochaine, et d'ici là, faites de beaux rêves!